Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
C'est parti pour l'info et le sport. Stéphanie, Rock, Stéphane, Jeunesse, bonjour.
Bonjour à tous.
Commençons par les trois titres.
L'événement de la soirée, c'est bien sûr la qualification des Bleus pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Une victoire sur le Danemark 2-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Soirée parfaite pour les hommes de Didier Deschamps.
Le corps de Marouane retrouvé dans une cage d'ascenseur en Normandie. Deux suspects mis en examen. Et à partir de demain, il va falloir avoir 18 ans pour utiliser une trottinette électrique en libre-service dans Paris.
La matinale week-end.
Et vous l'avez vécu hier en direct, bien sûr, sur RMC, cette qualification des Bleus 2-1 face au Danemark. Le deuxième but de Kylian Mbappé qui nous a donc qualifié, Stéphanie Rock.
Oui, deux matchs, deux victoires. Le contrat est rempli pour l'équipe de France. Nous sommes en direct depuis Doha avec notre envoyé spécial Loïc Braillet. Bonjour Loïc.
Bonjour.
La France dans un fauteuil avant le match face à la Tunisie. La première place du groupe est quasiment assurée là.
Ah oui, absolument. Il faudrait un concours de circonstances assez fou lors du troisième match de poule pour que ça ne soit pas le cas. Il faudrait un carton et une avalanche de buts pour l'Australie pour ne pas avoir cette première place. Donc c'est quasi fait, même si on attendra la validation en début de semaine prochaine. En tout cas, l'heure était à la fête hier soir chez les Bleus, bien sûr, qui ont voulu savourer avec leurs proches, qui ont fait le déplacement. Didier Deschamps, on a notamment vu passer un long moment avec sa femme Claude qui était là parmi les autres familles aussi présentes. Celle de Varane, Faïsal Amari, la maman de Kylian Mbappé, très fière de son fils évidemment hier. Véronique Rabiot, la maman d'Adrien. Lilian Thuram avait également fait le déplacement pour voir son fils Marcus jouer la fin de match de cette rencontre. En rentrant à leur hôtel, les Bleus ont eu droit à une haie d'honneur du personnel de leur camp de base, le Al Messila Resort. Beaucoup de sourires, beaucoup de joie. Place à la récupération maintenant pour les titulaires qui vont vraiment être préservés. Il devrait y avoir des changements lors du match face à la Tunisie avant tranquillement de se projeter vers le huitième de finale qui sera programmé dimanche prochain.
Merci beaucoup Loïc Braillet. Une belle soirée pour les Bleus fêtés aussi par leurs supporters. Ils étaient environ 5000 à avoir fait le déplacement jusqu'à Doha et avec cette nouvelle victoire, ils veulent y croire plus que jamais. Martin Bourdin a vécu la rencontre en tribune avec eux.
Sur le parvis du stade 974, les chants français ont résonné de longues minutes après le match.
On n'a plus de voix, on a tout donné.
Plus de voix, mais énormément de confiance.
Vous pouvez ramener qui vous voulez, les Argentins, les Brésiliens, les Espagnols, ramenez-les nous. On va chercher la troisième étoile, la troisième étoile, elle est là.
Personne n'y croyait, ils se sont dit la malédiction des champions, je sais pas quoi. Nous on va la briser la malédiction, on va briser les Danois, la malédiction, la Coupe du Monde, tout.
Et même si certains ont souffert hier soir.
À la première étape, on n'y a pas cru au début.
Il y a eu un petit stress, mais c'est bon, c'est passé.
Être la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale, ça donne envie à pas mal de Français d'aller chambrer les supporters des autres équipes.
Premièrement, les Belges. Et pas les Argentins.
Parce que les Argentins, faut dire la vérité, c'est les premiers à chambrer tout le monde.
Mais promis, cette confiance n'est pas de l'arrogance.
Derrière, ça reste un peu fébrile par moment, donc faudra faire attention contre certaines équipes.
Faut bien se préparer pour les prochains matchs, parce que les prochains matchs, c'est un peu difficile.
Et de l'avis de tous, le meilleur moyen de préparer ce huitième de finale, c'est évidemment de gagner contre la Tunisie mercredi.
Ils sont chauds, les supporters français. France-Tunisie, ce sera mercredi à vivre dès 16h sur RMC. Puis on le disait tout à l'heure avec Loïc Braillet, un match nul suffirait aux Bleus pour s'assurer la première place du groupe.
Oui, et peut-être pour éviter aussi de jouer l'Argentine en huitième de finale.
Si les Bleus finissent premiers, ils rencontreront le deuxième du groupe C, à savoir le groupe de l'Argentine. Mathieu, vous suivez toujours. Hein. On est focus sur ces groupes. Le but est évidemment d'éviter Lionel Messi et ses coéquipiers. Les Argentins, battus par l'Arabie Saoudite, se sont relancés dans la course à la qualification hier. Une victoire 2-0 sur le Mexique. Lionel Messi était soulagé après la rencontre.
Après la défaite contre l'Arabie Saoudite, on avait l'impression qu'on était éliminé. Donc c'est pas parce qu'on a gagné que maintenant on est les meilleurs du monde. Il faut atteindre notre objectif de terminer premier du groupe, c'est ce qu'on cherchait. Après c'est vrai qu'on a vécu des jours difficiles, beaucoup de tensions, les nerfs à vif. Mais maintenant c'est un autre mondial qui commence, on est plus tranquille.
Rien n'est fait dans ce groupe, hein, surtout que l'Argentine rencontrera la Pologne mercredi prochain. Au programme de cette journée dans le groupe E, le Japon sera opposé au Costa Rica dès 11h. L'Allemagne jouera sa survie dans ce mondial contre l'Espagne à 20h. Autre match, ceux du groupe F à 14h, Belgique-Maroc et Croatie-Canada à 17h. Toutes ces rencontres sont à vivre en intégralité sur RMC.
La radio officielle de cette Coupe du Monde 2022 et rendez-vous juste après le journal avec Daniel Riolo pour débriefer cette qualification des Bleus en 8e. Et maintenant, quelle stratégie ? 32-16 pour en discuter avec Daniel d'ici 4-5 minutes. Il est 8h04. Le reste de l'actualité, Stéphane, c'est d'abord cette sordide affaire. Un homme et une femme mis en examen hier pour acte de torture et assassinat.
Ils ont été arrêtés après la découverte du corps de Marwan, un jeune homme de 25 ans, découverte faite près de Rouen. Il était porté disparu depuis septembre, Guillaume Bier.
Le jeune homme était devenu le souffre-douleur du couple qui l'hébergeait depuis quelques jours à Saint-Germain-les-Arpajons dans l'Essonne. De simples connaissances rencontrées dans le milieu des rave parties avec lesquelles il partageait une addiction aux drogues de synthèse. Fin septembre, Marwan Swidi est mort chez eux, étranglé après avoir subi de multiples coups. Mais son bourreau ne s'est pas débarrassé du corps. Pendant des semaines, il l'a déplacé dans une malle de cache en cache, y compris en le laissant dans sa voiture quand il travaillait. Ce technicien ascensoriste a fini par le déposer dans la fosse d'ascenseur d'une résidence à Côtebec-en-Caux, près de Rouen, d'après nos informations. C'est là que les policiers de la PJ d'Evry l'ont retrouvé, sur les indications du suspect, arrêté après 2 mois d'investigation minutieuse à l'ancienne, souligne un enquêteur. En garde à vue, le meurtrier présumé, décrit comme froid, manipulateur et pouvant devenir très violent, a prétendu qu'il avait juste voulu se défendre face à la victime.
Guillaume Biet, chef du service police-justice de RMC. En bref, un homme en garde à vue après l'enlèvement d'un bébé par ses parents. La fillette de 6 mois, confiée à l'aide sociale à l'enfance, était en soins à l'hôpital de Saint-Étienne. L'homme mis en garde à vue, aurait pu aider les parents à l'enlever. Le bébé, lui, n'a toujours pas été retrouvé. Et puis un vendeur à la sauvette entre la vie et la mort après une rixe avec un autre vendeur hier soir au pied de la Tour Eiffel à Paris.
8h06, attention si vous avez prévu de prendre l'avion pour les vacances de Noël. Préavis, menace de grève chez Air France et EasyJet.
Les syndicats de personnel navigant qui réclament des meilleures conditions de travail et une hausse des salaires. William Bourdon est délégué syndical SNPNC EasyJet.
Le marché français était celui qui a travaillé le plus dur pendant toute la période Covid, ce qui a permis à l'entreprise de pouvoir traverser cette période sans trop de dégâts. Jusqu'à présent, on a été patient, on a été conciliant, on a essayé de trouver des solutions avec la compagnie pour éviter d'aller au clash. Et puis là, les augmentations qu'ils nous proposent couvrent même pas l'inflation, en fait. On est même pas à 6% d'augmentation. Nos demandes se situaient plutôt aux alentours de 6 à 7%. Aujourd'hui, la grève semble inévitable de notre côté, oui, effectivement.
Vous êtes peut-être des utilisateurs des trottinettes en libre service ou au contraire pas du tout, elles vous énervent. Eh bien, la mairie de Paris passe la seconde pour encadrer leur pratique.
Ces fameuses trottinettes électriques, objets qui cristallisent les tensions dans la capitale, vont tout bonnement être interdite aux mineurs à partir de demain. C'est ce qu'annoncent les 3 exploitants de ce marché dans la capitale. Une mesure qui soulage beaucoup de Parisiens, mais qui fait aussi des déçus, Kevin Gasser.
Sur son portable, Jalil, 16 ans, cherche à déverrouiller une trottinette. Demain, ce ne sera plus possible.
Je ne le savais pas.
Sur l'application, les clients devront scanner leur carte d'identité pour attester leur majorité.
C'est pas cool.
Elia, jeune parisienne, est une utilisatrice régulière.
Pour aller au lycée, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple que prendre le métro parce que c'est beaucoup plus rapide.
C'est justement la vitesse parfois excessive et les comportements dangereux des jeunes usagers qui posent problème. Sur un boulevard très fréquenté de la capitale, 4 jeunes de 15 ans avancent sur la même trottinette électrique.
Mais ouais, plus sérieusement, il faut qu'on fasse plus attention. On en est conscient des risques.
Les 4 amis ne sont pas très contrariés par cette interdiction. Ils continueront à traverser Paris en trottinette électrique, explique Hakim, car ils possèdent chacun la leur.
Je vois pas le danger en vrai.
Pourtant, les accidents sont nombreux, constate Olivier Hérisson, chirurgien orthopédiste pour un service d'urgence de la main et du membre supérieur.
Cette semaine, j'ai opéré 2 fractures de la main et 2 fractures du poignet, donc en tout 4 patients suite à des chutes à trottinette.
Chaque année, son service opère près de 300 accidentés de trottinette électrique, dont un quart sont des mineurs.
Les explications de Kevin Gasser pour RMC, mise en place de cette interdiction à Paris. Demain, est-ce qu'il faut faire la même chose dans toutes les villes? 32-16, on a le débat ensemble depuis 6 heures. Vous continuez évidemment si vous le souhaitez. Nous sommes ensemble jusqu'à 9 heures. 8h09, Peggy, c'est l'heure
de jouer.
Allez, jouons. Parce qu'on vous emmène, c'est pas mal hein, ce week-end.
Au ski.
Le ski, Risoul 1850.
Et pour une semaine et pour 4 personnes avec les forfaits de remontée mécanique, on vous offre la totale. Franchement, vous allez vous éclater, vous allez pouvoir skier ou surfer en fonction de ce que vous aimez faire, ou peut-être simplement boire du vin chaud avec une tartiflette ou une raclette.
Oui,
ou alors de la luge aussi.
Ah,
oh bah oui, évidemment.
Et elle est digérée là, cette heure-ci ou pas, la raclette d'hier soir, Peggy? Ça va?
C'était hier midi, donc j'ai largement eu le temps. Donc n'hésitez pas, tentez votre chance. 185 km de piste pour votre séjour Risoul 1850. Il suffit de tout simplement de nous appeler 3216, la touche 4, ou alors vous envoyez par SMS le mot matin au 7-32-16, matin au 7-32-16, bonne chance.
Un dimanche qui commencerait par un petit séjour au ski, franchement c'est formidable,
n'hésitez
pas. Bonne chance à vous.
À suivre dans la matinale week-end.
Le meilleur match des Bleus depuis 2006 face au Brésil. C'est ce que dit Daniel Riolo, dit dithyrambique hier soir après la qualification de la France en huitième de finale. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous avez regardé le match? Quelle analyse? Et maintenant, surtout, quelle stratégie adopter pour la suite? On en discute avec Daniel Riolo dans deux minutes.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Rouault. Il est 8h11, vous êtes sur RMC, il fallait le faire. Pour gagner en confiance, rester en tête du groupe, se qualifier en 8e, le faire pour gagner, tout simplement. Eh bien, les Bleus l'ont fait hier soir.
Il va libérer tout le monde, l'arbitre, ouais, c'est fini, voilà. C'est terminé. L'équipe de France s'impose face au Danemark, 2-1, avec un doublé de Kylian Mbappé. L'équipe de France est qualifiée en 8e de finale de la Coupe du Monde et a surtout vaincu la bête noire. Le Danemark.
Voilà, ça c'est fait. Bonjour Daniel Riolo.
Bonjour Mathieu.
On a vécu ce match déjà mythique ou pas au sein de cette compétition avec Jeannot Rességui hier au commentaire. Comment vous qualifieriez ce match, Daniel?
Ah non, il faut pas employer les grands mots parce que on est que dans un match de poule. Certes, il permet la qualification pour les huitièmes, mais c'est vraiment une petite étape. Ce qui est très intéressant dans ce match, et ce pourquoi j'ai pu dire que j'avais pas vu en termes de jeu. Attention, je parle pas en termes forcément d'émotion parce qu'une finale de Coupe du Monde, c'est évidemment bien plus important, bien plus fort en termes d'émotion. Une demi-finale, un quart, c'est bien plus fort. Je parle juste du plaisir à voir évoluer une équipe, au mouvement qu'effectuent les joueurs sur le terrain, le danger permanent qui vient de Mbappé, qui vient de Dembélé, le match extraordinaire de Griezmann au niveau technique, sa distribution, sa vision du jeu. C'était un vrai plaisir en termes de jeu, pas en termes forcément de compétition. Parce qu'un deuxième match de poule, si en huitième de finale vous tombez et vous êtes éliminé, bon,
on s'enflamme pas.
Qu'est-ce qu'on en fera? On le rangera dans la boîte à souvenirs, voilà, et puis on s'en souviendra peut-être même pas dans 4 ans. On dira, ah ouais, tu te souviens de ce match contre le Danemark? Alors qu'évidemment, un match couperet en quart, en demi, on s'en souvient généralement des années plus tard. Mais dans cette compétition, dans l'histoire de cette Coupe du Monde, l'idée que les Bleus sont capables de jouer comme ça, parce que en 2018, ça jouait pas comme ça, c'était des rencontres un petit peu ternes. On avait toujours l'impression qu'à la fin, on avait de la réussite. Vous vous souvenez la fameuse expression
la chatte à Dédé.
À Dédé. Voilà. Et ben là, on n'a pas besoin de parler de ça. Parce que là, ça joue. Parce que là, on se dit, par le jeu, cette équipe-là peut aller loin dans cette compétition. Et vous savez que le deuxième but de Mbappé, il est quand même arrivé tard.
86e.
À un moment, on s'est quand même dit, ça va peut-être finir un partout. Et ben, qu'est-ce qu'on aurait dit? On dit, quelle injustice si ça se termine un partout. On mérite quand même mieux. Moi, je vous assure qu'il y a 4 ans, quand on gagnait, c'était souvent le contraire. On se disait, ouf! Voyez donc, on a eu quand même un petit peu de bol de gagner ce match-là.
C'est vrai,
voyez,
c'est
là,
vrai.
Cette inversion d'impression.
C'est
qu'on
vrai
a.
Qu'il.
Moi, je préfère cette impression-là. Moi qui étais parmi ceux qui étaient les plus critiques envers le jeu des Bleus en 2018, là, je suis emballé par ce que je vois.
Il y avait plus d'efficacité face au but, de la vigilance sur les coups de pied arrêtés. Vous parlez du jeu, Daniel, pas de l'émotion, mais regardons quand même du côté de l'émotion. Sébastien est avec nous. Bonjour, Sébastien.
Oui, bonjour.
À Doha aussi, Sébastien. Vous étiez avec nous hier, vous veniez d'arriver à Doha pour ce deuxième match des Bleus. Vous l'avez vécu comment?
Et alors moi je suis l'analyse de Daniel est vraiment très très bonne. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand même au niveau ascenseur émotionnel, quand on est dans le stade à une Coupe du Monde, ça a été quand même l'ascenseur. J'ai trouvé que on le sentait que s'ils accéléraient, que ça mettait un petit coup de rein à droite à gauche, ils pouvaient mettre le feu. Voilà, Dembélé, Griezmann a été moi je trouve exceptionnel hier soir, honnêtement. Mais ça reste quand même au niveau émotion, on a les poils. Hein. Quand on est vraiment en direct, on n'est pas derrière notre télé, c'est exceptionnel.
Et j'ai l'impression que vous avez donné de la voix, Sébastien. J'entends
ce matin. Ça a été dur, oui, parce qu'en plus en tant que Français, on est adoré, mais vraiment à Doha, c'est impressionnant. Comme toutes les nationalités, j'ai dû prendre depuis hier, je sais pas, peut-être 500 photos avec des Uruguayens, l'Argentine, le Brésil, les Danois, enfin tout. La France, je saurais pas l'expliquer. On est vraiment.
Il y a quelque chose qui se passe.
C'est fou.
Là-bas sur
c'est
place,
fou, fou.
Ça met les poils, comme vous dites. Bon, regardons quand même.
Exactement.
Essayons de nous projeter maintenant, Sébastien, Daniel. Il y a cette stat, Daniel Riolo. La France ne perd jamais une grande compétition quand elle bat le Danemark en phase de poule. Écoutons Didier Deschamps sur cette statistique, cette fameuse malédiction du Danemark.
C'est surtout une joie. Je vais pas être soulagé. Je suis pas inquiet. Je suis jamais inquiet. Même
si bon, l'environnement n'est pas toujours des plus paisibles. J'avais pas d'anxiété, d'inquiétude par rapport à ces statistiques. De toute façon, pour la bonne raison qu'à un moment, les statistiques, elles sont faites pour être contredites. On va pas s'enflammer non plus, mais c'est très très bien ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais j'ai d'autres moteurs ou d'autres leviers pour faire en sorte que les joueurs y soient, parce qu'ils y sont déjà d'eux-mêmes.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer, pour que le groupe continue de vivre bien, comme on dit, adapter les stratégies, peut-être souffler un peu, faire tourner face à la Tunisie, Daniel ?
Ouais, alors vous savez, pour cette histoire de chiffres, quand on les voit, évidemment, c'est tellement réconfortant de se mettre dedans, tellement réconfortant de se dire, ah oui, c'est vrai, à chaque fois dans l'histoire, quand on allait loin, c'est cette histoire du Danemark. Et puis, vous savez, il y en a un autre, quand la France gagne les deux premiers matchs de la poule, c'est arrivé 98 et 2018. Eh ben ça va au bout, c'est facile parce qu'on se dit bon bah alors voilà, ça semble écrit, mais évidemment que ce genre de choses, tient pas la route, c'est pas la route d'une réflexion, c'est pas rationnel du tout. Donc ça peut faire du bien et ça permet d'entretenir un petit peu le rêve, mais si les Bleus doivent continuer, il va pas falloir se raccrocher aux chiffres, il va falloir continuer à afficher cet esprit conquérant parce que il y a la possibilité, pourquoi pas, vous savez, quand vont arriver en huitième de finale, les fameux matchs couperets, c'est souvent là où il y a évidemment beaucoup plus de pression. Il y a encore quelques jours, beaucoup d'observateurs, moi j'émettais des doutes, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Est-ce qu'on va continuer avec cet esprit d'entreprise ou est-ce qu'on va revenir à l'ADN des champs très prudent? On va enlever un attaquant, Dembélé, qui fait énormément de jeux, qui anime cette attaque, et mettre un milieu plus défensif pour en gros verrouiller un petit peu plus. Ou est-ce qu'on va continuer avec cet esprit-là? Ça va être la question. Pas pour le prochain match, parce que pour le prochain match, il est probable qu'on fasse tourner l'équipe, qu'on fasse reposer des cadres. C'est fort possible. On verra bien ça, mais il faut déjà se projeter puisqu'on est qualifié. En huitième, avec quel visage on arrive? Moi, j'aimerais que cette équipe de France écrive son histoire autrement que celle de 2018, qui était très prudente, très pragmatique et qui a eu énormément de réussite. Moi, j'aimerais que celle-là, elle soit conquérante. Pour l'instant, on l'est, avec des Mbappé, Dembélé virevoltant sur les côtés, Griezmann qui organise le jeu. Est-ce qu'on continue comme ça? Moi, j'aimerais bien. En plus, ce serait absurde de démarrer une histoire sur un ton et de ne pas poursuivre sur ce ton-là. Donc, j'espère qu'on va continuer comme ça, qu'on va tout le temps avoir envie de produire du jeu, de jouer chez l'adversaire, d'aller le provoquer. J'aimerais bien
y aller avec la gagne.
C'est la question.
Avec la gagne, avec
l'approche des huitièmes.
Et avec cette position, ce statut de champion du monde en titre. Sébastien, vous restez à Doha jusqu'à quand?
Je rentre vendredi matin. Là,
ah, d'accord. Dans
une semaine, oui.
Bon, ok.
Ouais.
Peut-être que vous prolongerez le séjour, non?
Non, il y a quand même le travail. Et je suis avec mon fils qui a 16 ans. Déjà, il loupe l'école, donc c'est pas tip-top. Hein.
D'accord, ok.
Mais bon, on n'en dira pas plus. Une fois dans une vie, mais bon, allez, zou.
Bon, allez, on fera les mots pour le collège, etc.
Ouais, exactement, voilà, ben voilà. Vous.
Signé RMC, on va demander à Daniel Riolo de vous faire un mot d'excuse.
Oui, ben voilà. Après, si je peux me permettre, voilà, si là, Daniel vous parliez beaucoup des chiffres, tout ça. Pareil, il faut se rappeler qu'apparemment, ça fait quelques décennies qu'un champion du monde n'est pas sorti des poules. Donc, est-ce que on a conjuré le mauvais sort? Est-ce que, être prudent, oui, non, est-ce qu'on va au bout? On verra.
Ce qui est sûr, messieurs.
Et puis, et voilà.
C'est que nous suivrons tout ça jusqu'au bout. Ça, c'est la promesse d'RMC jusqu'au 18 décembre, jusqu'à la dernière seconde, la radio officielle de cette Coupe du Monde, avec Sébastien qui est à Doha et qui continuera de suivre les matchs sur RMC à son retour en France. Et avec vous, Daniel Riolo. Merci à tous les deux.
Merci, à bientôt. Merci.
Allez, à très vite. Au revoir, à bientôt.
Bonne journée, bon mondial. Il est 8h20.
À suivre dans la matinale week-end.
Deux semaines après l'effondrement de deux immeubles à Lille, l'état inquiétant de nos bâtiments en France.
Oui, des évacuations par dizaines à Marseille, Bordeaux, en région parisienne. Chaque fissure prise très au sérieux. Quel est l'état de notre parc immobilier aujourd'hui en France? Enquête RMC, dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault. Bienvenue sur RMC, il est 8h22. Mais que se passe-t-il à Lille? Que se passe-t-il à Lille? Encore cette nuit, un immeuble, plusieurs immeubles évacués, un morceau de mur d'un restaurant tombé à la fin du service. Ça s'est passé pas plus tard qu'il y a quelques heures, il y a quelques jours. Trois autres immeubles avaient été évacués à Lille, deux semaines après l'effondrement mortel qu'on a encore tous en tête. Quel est l'état du parc immobilier à Lille, mais aussi dans les autres grandes villes de France? La moindre fissure désormais est prise au sérieux.
L'enquête RMC.
Bonjour Martin Cadoret.
Bonjour Mathieu.
Essayons d'y voir clair. Ce matin, quel est donc l'état de nos immeubles? Quel risque pour les habitants? Comment agir? Ce qui est sûr, c'est que l'inquiétude est très vive en ce moment dans de nombreuses grandes villes.
Oui, exemple à Bry-sur-Marne, en région parisienne, 70 personnes évacuées il y a une semaine. Le maire Charles Aslangul.
Était apparu. Il y en a une qui part du sous-sol au dernier étage, c'est-à-dire est dans un mur porteur alors que c'est du béton armé. Des bruits de craquement étaient entendus par les locataires. Donc on a envoyé un expert en fin de journée. Il y avait un danger de péril imminent. J'avais évidemment en tête ce qui s'était passé à Lille quelques jours plus tôt. Et donc j'ai préféré d'évacuer en plein milieu de la nuit des familles et donc de générer une angoisse plutôt que d'apprendre plus tard un drame.
Le maire qui va demander à tous les bailleurs sociaux de la ville de vérifier les immeubles de la commune.
Quelles sont les causes de ces fissures, Martin ?
Alors, c'est variable selon les villes. À Bordeaux, par exemple, 3 immeubles s'étaient écroulés en juin 2021 à plusieurs jours d'intervalle et sans faire de victimes. Depuis, des dizaines d'immeubles ont été évacués à divers endroits. La ville, en fait, elle est construite sur des sols marécageux, des affluents de la Garonne, ce qui pourrait expliquer l'instabilité de certains bâtiments. Alors, la ville a lancé une vaste étude sur le sujet. Alors, les conclusions ne sont pas encore connues, mais ce qui est sûr, c'est que l'instabilité des sols est un facteur de risque, surtout avec le changement climatique. Christine Lecomte est présidente de l'Ordre National des Architectes.
On a toutes les questions de retrait et de gonflement d'argile qui viennent après les canicules et qui vont aussi nous arriver. En fait, on s'est souvent dit, bah voilà, on peut construire n'importe où, on sait le faire techniquement. Aujourd'hui, on réaménage en prenant conscience qu'on a des sols, qu'on a des sous-sols, que ceci aussi bouge. Et c'est vrai que les questions de réchauffement climatique nous le rappellent.
Le réchauffement climatique, donc un facteur d'explication, mais pas que. Les politiques d'urbanisme jouent aussi un rôle. Christine Lecomte.
Il y a eu un urbanisme pendant des années qui a favorisé l'étalement urbain et la désertification progressive des centres-villes. Et aujourd'hui, en fait, nos villes moyennes peuvent avoir un bâti plus vétuste, effectivement, parce que moins entretenu, parce que parfois vacant.
Quelques chiffres, hein. À Paris, on compte 117 000 logements vacants, à Marseille, 36 000, à Nantes et Bordeaux, on est autour de 10 000 logements vacants.
Les logements vacants qui posent donc question, et puis les logements insalubres. Insalubres donc à risque, Martin.
Oui, et là, c'est la faute des propriétaires ou des bailleurs qui ne veulent pas engager de travaux. À Marseille, dans l'affaire de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, le bailleur social Marseille Habitat est mis en examen. Autre exemple, à Saint-Denis, la lutte contre les marchands de sommeil a été érigée en priorité par la mairie, qui estime qu'un cinquième du parc privé est insalubre. Situation tendue aussi dans le département du Nord, 70 000 logements insalubres, chiffre donné avant-hier par la préfecture. Et à Paris, 148 immeubles en péril recensés l'année dernière, un chiffre en baisse. La mairie l'explique par sa politique de fermeté envers les propriétaires. En clair, elle fait les travaux elle-même, puis elle envoie la facture aux bailleurs.
Chiffres en baisse à Paris, mais tous les chiffres sont quand même très très inquiétants ce matin. Qu'est-ce qu'on fait si on constate la moindre fissure dans son immeuble, Martin? Quel bon geste à adopter? Quel réflexe?
Alors, il faut d'abord alerter le syndic, qui pourra faire intervenir un expert, notamment si la fissure fait plus de 2 mm de large. Évidemment, en cas d'urgence, vous appelez les secours. Mais si c'est une forte inquiétude, vous pouvez aussi vous rendre en mairie, qui peut aussi faire intervenir un expert et qui peut prendre finalement un arrêté de péril imminent. Petite particularité, à Paris, on peut faire appel directement aux architectes de sécurité. C'est un corps unique en France qui dépend de la préfecture de police.
Merci Martin Cadoret. Enquête complète à retrouver sur rmc.fr. 8h26. Qui va dévaler les pentes de Risoul 1850? Le tirage au sort a eu lieu, c'est l'heure.
RMC, la matinale week-end. Le 10 minutes chrono.
Alors, homme ou femme?
Écoutez, je vais pas vous donner la réponse.
Bah si, on va dire bonjour.
Oui, bah voilà, et on va le savoir. Ok, on fait comme ça? Allez.
Faisons comme ça.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Ah, c'est un homme, c'est Sofiane. Bonjour Sofiane.
Bonjour Sofiane.
C'est moi qui ai gagné, merci beaucoup.
Ça fait plaisir, hein?
Ah, je suis trop content, franchement. En plus, je voulais partir. Et les prix, c'est très très cher. Et là, ma femme et mes enfants, ils vont être trop contents.
Eh ben voilà, un séjour Risoul 1850 pendant une semaine.
Naël et Nastia.
Oula, mais ça fait du monde, hein, tout ça, Sofiane, une grande famille.
Exactement.
On est comme ça sur RMC, on vous régale. Donc Risoul 1850, une semaine, Peggy.
Pour 4 personnes avec les forfaits remontées mécaniques comprises.
C'est magnifique.
Package total. Ça fait du bien de se réveiller beaucoup. Un dimanche matin, tôt. Mais vous faites bien, Sofiane, parce que vous écoutez la matinale.
Ce matin, j'ai dit, allez, pourquoi pas tenter la chance.
Et comme quoi, ça peut marcher.
Comme quoi, hein.
Vous nous enverrez une carte postale?
Avec plaisir.
Merci d'avoir joué avec nous, Sofiane.
Merci à vous.
On vous embrasse.
Et bon séjour.
Un gros bisou à ma femme que j'aime et à mes deux enfants.
On vous embrasse tous. Salut, Sofiane.
Merci. Salut.
Le 10 minutes chrono sur RMC avec Risoul 1850, station d'altitude. Risoul 1850, du grand ski, mais pas que. Sous le soleil des Alpes du Sud.
Le retour de l'info, du sport, de la météo dans une minute sur RMC. L'info et le sport avec Stéphanie Roch et Stéphane Jeunesse. Bonjour à vous deux.
Bonjour à tous.
Les trois grands titres ce dimanche.
Des écoliers privés de dessert à Agde à cause de l'inflation et l'épidémie de Covid reprend. Conséquence, certaines voix réclament le retour du port du masque.
Les Bleus s'imposent 2-1 face au Danemark et filent en huitième de finale de la Coupe du Monde.
On vous en parle souvent sur RMC, cette inflation galopante, un peu plus de 6% au dernier comptage et surtout ses conséquences. Ce matin, on s'intéresse à l'une d'elles, Stéphane.
Dans plusieurs communes du pays, les repas dans les cantines scolaires voient leur quantité diminuer. Les formules sont réduites, pas d'entrée ou pas de dessert ou moins de légumes, comme à Agde dans l'Hérault. Dans la ville, le prestataire qui fournit les repas serait dans l'incapacité de faire face à l'explosion de ses charges à cause de l'inflation, Estelle Henry.
Davina Smart est présidente de la Fédération de parents d'élèves FCPE d'Agde. Elle a appris la nouvelle il y a une semaine et elle est très en colère.
De payer donc le même prix à la cantine et d'avoir moins, je trouve que c'est pas normal. Surtout que certains enfants, ils ont peut-être que ce repas équilibré par jour.
Même colère du côté des élus qui dénoncent une situation qui s'est dégradée dès le mois de septembre. Jean-François Audrin, maire de Saint-Georges-d'Orc, espère que des solutions seront trouvées rapidement.
Le prestataire a enlevé un élément, donc notamment les desserts. On a signé ce marché en 2020, nous sommes engagés jusqu'en 2023. Et pour nous, il est indispensable que nous fassions vite parce que il faut que les élèves puissent être gérés au mieux et ce, le plus rapidement possible.
De son côté, la société chargée de préparer les repas explique ne plus pouvoir faire face à l'augmentation massive de ses charges. Thierry Pompadon, directeur général délégué du groupe SHCB.
Quand on a découvert que notre coût d'électricité allait être multiplié par 10, très sincèrement, on n'était pas prêt. Hein. On n'a pas eu trop le choix. On est en état de survie. On n'est pas en état de guerre, mais en état de survie. Donc, il faut réagir excessivement vite.
Selon les élus, une dizaine de communes seraient concernées par une réduction de leurs repas.
Le reportage d'Estelle Henry pour RMC.
L'actualité ce matin, c'est aussi ce préavis de grève dans le secteur aérien pour les vacances de Noël.
Les syndicats de personnel navigants réclament une hausse des salaires et des meilleures conditions de travail. EasyJet et Air France sont concernés par ce mouvement social, Rémi Inc.
Deux syndicats d'Air France appellent à la grève en pleine période de fête pour dénoncer les conditions de travail des hôtesses et des stewards. Mais la direction affirme qu'une nouvelle négociation doit se poursuivre au-delà de janvier 2023 et ces deux syndicats sont minoritaires. A priori donc, la grève a peu de chances d'aboutir. En revanche, du côté d'EasyJet, les deux syndicats qui vont déposer un préavis de grève sont majoritaires et les revendications portent principalement sur les salaires. Mot d'ordre plus engageant quand on sait que ces salaires ont été gelés pendant toute la période Covid. La direction propose aujourd'hui une augmentation de 5%. Les syndicats demandent entre 6 et 7% pour couvrir l'inflation. Cette grève a donc de grandes chances d'aboutir et des perturbations sont à prévoir pour les avions EasyJet. Les syndicats conseillent d'ailleurs aux passagers de d'ores et déjà s'organiser.
En bref, un terrible accident de la route cette nuit en Normandie. Deux femmes et un homme sont morts dans un violent accident de la route survenu à Cléon, c'est au sud de Rouen. Les circonstances restent à déterminer, mais les pompiers affirment que ce sont deux automobilistes qui se sont percutés. Et à Lille, deux semaines après l'effondrement d'un immeuble, deux bâtiments ont été évacués cette nuit. Plus de précision dans le flash de 9h.
8h33, cette question qui revient à la une. Faut-il réinstaurer le port du masque dans les lieux clos et les transports en commun?
Et si on se pose cette question ce matin, c'est parce que les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse. Plus 31% par rapport à la semaine dernière, plus 49 000 nouveaux cas enregistrés vendredi. Et aussi parce que certains professionnels réclament le retour du masque, comme le patron de la Fédération hospitalière de France. Une bonne idée également pour Benjamin Davido, médecin infectiologue.
Il faudrait essayer d'aller vers une incitation forte au port du masque en intérieur. Aujourd'hui, je crois qu'il faut de la pédagogie, expliquer qu'il y a une situation très particulière avec la bronchiolite, il y a une menace d'une forte reprise épidémique de la grippe et qu'on arrive sur un début de 9e vague du Covid et que dans le vivre avec, eh bien, c'est se protéger les uns les autres dans des périodes où ces maladies circulent et où en intérieur, les virus ont tendance à nous contaminer.
L'heure des sports à 8h34.
RMC, le journal des sports.
C'était l'événement de la soirée, vous l'avez vécu en direct sur RMC. Stéphanie Roch, c'est cette France qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial.
Cette France qui gagne une victoire au mental de buts à 1 grâce au prodige Kylian Mbappé, 23 ans à peine et déjà 31 buts en équipe de France. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial depuis Doha, Loïc Braillet, qui a vécu cette soirée de fête avec l'équipe de France. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Qualification désormais acquise. Et pour que la première place leur échappe, il faudrait un sérieux concours de circonstances.
Oui, il faudrait que la France perde contre la Tunisie et que dans le même temps, l'Australie gagne et mette beaucoup de buts face au Danemark. Tout cela est hautement improbable. En tout cas, les Bleus ne pensent pas encore à ce troisième match. Place à la récupération pour les titulaires d'hier soir qui devraient tout doucement être en train de se lever à l'heure où je vous parle. Des crassages légers à prévoir lors de la séance du jour. Les remplaçants vont, eux, en revanche, vouloir se montrer auprès de Didier Deschamps qui devrait faire plusieurs changements dans son 11 pour le dernier match face à la Tunisie, histoire de laisser au repos les cadres, même si certains d'entre eux voudront enchaîner. On pense notamment à Kylian Mbappé qui n'est jamais rassasié de buts et de records. Ce sera peut-être difficile de le convaincre de rester sur le banc. Il faudra aussi attendre les derniers matchs du groupe C pour savoir quel sera l'adversaire des Bleus en 8e de finale. Argentine, Mexique, Pologne ou Arabie Saoudite, tout est encore possible. En tout cas, ce 8e est programmé dimanche prochain à 16h, à condition bien sûr que les Français terminent bien premier de leur groupe.
Merci beaucoup Luc Braillé pour toutes ces précisions. Des Bleus jamais rassasiés comme le défenseur Dayot ou Upamecano, impeccable encore hier, il se voit aller très loin.
C'est toujours bien de gagner. Comme j'ai dit, moi je suis affamé de victoire. Je pense le groupe aussi. Je pense que voilà, on était tous très heureux de cette victoire. On a bien fêté. Après, on sait que c'est que le début. On va pas abandonner, on va tout donner pour aller le plus loin possible dans cette compétition.
La France est donc qualifiée. D'autres favoris, en revanche, pourraient passer à la trappe.
Comme l'Allemagne, déjà battue par le Japon, la Mannschaft n'a pas d'autre choix que de faire un résultat face à l'Espagne, à notre prétendant. Match à suivre sur RMC dès 20h. L'Argentine, grandissime favorite qui avait sombré face à l'Arabie Saoudite, retrouve, elle, le sourire après sa victoire face au Mexique 2-0. À suivre aujourd'hui Japon-Costa Rica, Croatie-Canada et Belgique-Maroc. Pour le capitaine belge Eden Hazard, les Diables Rouges peuvent aller très loin dans ce mondial, mais à une condition.
Je pense que la Belgique peut gagner la Coupe du Monde si Eden il est bon. Si Eden il est moins bon, ce sera plus difficile. Mais voilà, tout est possible. Et moi, j'ai juste envie d'être sur le terrain. J'ai passé 3 années un peu compliquées. Et quand je suis sur le terrain, je suis toujours heureux. Donc moi, prendre les choses en main, à moi, demander le ballon, à moi, faire des différences, à moi, prendre du plaisir, à moi, marquer des buts. Donc voilà, je suis là pour ça.
À lui, Eden Hazard. La Belgique peut gagner le mondial à la seule condition qu'Eden Hazard soit bon. C'est un peu Eden Hazard Delon ou Alain Delon Hazard.
Oui, comme vous préférez, ça marche en tout cas dans les
mais
deux
on
sens.
On l'aime beaucoup, Eden Hazard. Quand même.
Et puis, pas de politique dans le sport, ça a longtemps été la doctrine soutenue, encore par le président Emmanuel Macron il y a quelques jours, sauf que cette Coupe du Monde au Qatar fait décidément exception à la règle.
Elisabeth Borne, la première ministre, qui s'affiche au comptoir dans un bar du Calvados pendant France-Danemark, Emmanuel Macron qui tweete durant toute la soirée, un changement de ton qu'analyse Cyprien Pézeril du service politique des RMC.
C'est dans une série de tweets publiés à la mi-temps du match des Bleus que le chef de l'État explique que le Qatar doit continuer les changements engagés pendant la Coupe du Monde. Même si la formule est floue et évite de parler du fond, grince un député insoumis, eh bien on comprend entre les lignes qu'il évoque les droits humains et la défense des minorités, notamment LGBT. Loin, bien loin donc du même Emmanuel Macron, soutenant il y a 10 jours que le sport ne devait pas être politisé. Mais en réalité, la position française évolue depuis déjà une semaine. D'abord, la ministre des Sports qui invite les joueurs à utiliser les espaces de liberté dont ils disposent pour s'exprimer. Et puis, message dans le même sens vendredi de la première ministre Elisabeth Borne qui prenait alors la parole depuis l'Allemagne, dont les joueurs ont choisi eux de poser la main sur la bouche en signe de désapprobation.
Merci Cyprien Pézeril, le service politique d'RMC. 8h38. Tiens, revenons sur l'une des actualités qui vous a fait réagir nombreux ce matin avec Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu.
Chef de cuisine dans un collège de l'Ain, c'est bien ça Philippe?
Tout à fait.
De circonstances, avec cette information donc à Agde et les communes alentours, le prestataire de cantine ne sert plus de repas complet aux enfants. Il n'y a parfois plus de dessert, parfois pas d'entrée, parfois pas de laitage. Pourquoi? À cause de l'inflation. D'ailleurs, Thierry Pompanon, le directeur délégué général de ce groupe, était avec nous tout à l'heure à 7h40. Il l'expliquait très bien en disant « c'est l'inflation, je ne peux plus me permettre de servir des repas complets ». Philippe, qu'en pensez-vous?
Ben moi, je dis que c'est une honte parce que bon, dans notre collège, nous fabriquons quasi tous nos desserts maison. Un dessert maison, ça coûte pas plus de 25 centimes. Donc, ce qu'il faut que les communes fassent, c'est qu'elles arrêtent de donner leur repas aux sociétés de restauration, qu'elles remettent des cuisiniers dedans et les mettent au boulot.
C'est votre cas pour vous, Philippe. Comment ça fonctionne?
Ben, bon, j'ai pas de problème parce qu'on arrive à boucler notre budget. Et moi, j'ai un repas de Noël avec du foie gras poêlé. On fait des moelleux au chocolat avec du chocolat chez Valronin pour ceux qui connaissent. Donc, on n'a pas de problème. Mais il faut mettre les gens au boulot. et arrêter de donner de l'argent des Français aux sociétés de restauration.
Vous n'êtes pas employé de société de restauration, c'est quoi? C'est une régie communale?
Non.
C'est le collège directement qui vous...
Conseil départemental.
Conseil départemental. Donc vous êtes employé du collège,
conseil
quoi,
du départemental, du collège. Voilà, je gère ma cuisine comme si j'étais dans le privé, mais on arrive à faire tout ce qu'il faut.
Vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre cuisine du début à la fin. C'est d'ailleurs ce que disent les maires, l'Association des maires de France. Quand Sodexo, Elior et les autres leur demandent 9% d'augmentation sur les contrats, l'Association des maires de France répond « on va revenir à une régie et puis on fera les choses nous-mêmes ».
Bah oui, c'est la faute des maires. C'est eux qui ont choisi de donner leur cantine aux sociétés de restauration en prenant la solution de facilité. Et bien maintenant qu'ils assument leur choix.
Merci Philippe.
Il y en a des solutions, mais il faut se mettre au boulot.
Merci Philippe d'avoir été avec nous.
Merci, bonne journée.
Salut Philippe, à bientôt à l'écoute d'RMC. Il est 8h40, 9h-20. Restez bien avec nous. On va repartir à l'Assemblée nationale, car il y a eu ce moment historique, qualifié d'historique par de nombreux groupes à l'Assemblée nationale, la loi Veil inscrite dans la Constitution, le droit à l'avortement garanti en France. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Les femmes seront-elles mieux prises en charge sur le terrain? On va essayer d'ouvrir le débat et de regarder ce qui se passe réellement aujourd'hui dans tous ces centres d'accueil. Rada Atemganzer, gynécologue fondatrice de la Maison des Femmes, est avec nous. Et Blandine Leloir, réalisatrice du film Annie Colère, sur le combat mené par le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, avec nous aussi. Et c'est dans deux minutes sur RMC.
RMC, la matinale week-end. Tous engagés.
8h44, tous engagés, c'est le grand entretien de la matinale. Retour ce matin sur un moment d'histoire à l'Assemblée nationale cette semaine.
Pour 337 contre 32, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi constitutionnelle.
Ce vote pour l'inscription dans la Constitution de l'interruption volontaire de grossesse. Bonjour Rada Atemganzer. Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue, fondatrice de la Maison des Femmes en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que cette inscription, à vos yeux, dans la Constitution, va réellement changer?
Elle apporte simplement une sécurité symbolique de se dire que peut-être un jour on va arrêter de se poser la question. Est-ce que ce droit risque de disparaître? Est-ce qu'il faut rester vigilant? Ça, c'est très rassurant et j'aime beaucoup ce chiffre de 32 contre. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup, mais ce n'est pas non plus à l'unanimité.
Faut pas rêver.
Ce combat, ça fait des décennies qu'il est mené, ça fait des décennies qu'il revient sur les tables des députés, mais pas seulement. Ce combat pour l'égal accès à l'avortement. On a vu ce choc provoqué par la Cour suprême des États-Unis il y a quelques mois. Bonjour Blandine Lenoir.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes réalisatrice d'Annie Colère. C'est votre film. Il sort mercredi dans toutes les salles de cinéma et il retrace le combat mené par le MLAC à l'époque, d'avant la loi Veil, juste avant le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Pourquoi avoir voulu raconter ce combat précis du MLAC?
Déjà pour se souvenir que certaines lois s'arrachent de hautes luttes et ne sont pas données comme ça généreusement par les gouvernements. Et puis aussi pour défendre une loi, je crois que c'est très important de connaître son histoire.
Écoutons un petit peu ce que ça donne.
Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent.
Comment tu t'appelles?
Annie.
J'ai deux enfants.
Est-ce que t'as déjà avorté?
Une fois.
C'était avec quoi?
Des aiguilles à tricoter.
Tu veux le garder, c'est ça?
Mon mari dit que c'est pas possible.
Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceintes ou non. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, et c'est la révolution.
Annie Colère, interprétée par Laure Calamy en salle mercredi. Blandine Lenoir, au-delà du sujet même de l'avortement, de ce combat mené par le MLAC, il y a aussi le changement de société, le changement de perception des femmes elles-mêmes.
Oui. Et en tout cas, je voulais rebondir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les 32 députés qui n'ont pas validé la proposition de loi, ça nous permet de voir qui résiste encore, quoi.
C'est symptomatique encore et toujours. Ça veut dire que ce droit ne sera jamais réellement garanti, il y aura toujours un risque.
Ben, je crois que ce qui serait bien, c'est que, enfin, en France, on a des lois magnifiques, il faudrait juste les appliquer. C'est comme la loi, par exemple, sur l'éducation sexuelle, qui est très belle, et où c'est 3 séances d'une heure et demie, du CP à la terminale, c'est toujours pas appliqué. Pareil, et la loi pour l'accès à l'IVG est très belle, et là, c'est dans les faits que, avec la clause de conscience sortie par les médecins ou les centres qui ferment, que la loi n'est pas appliquée. Je sais pas, voilà.
Alors venons-en au fait. Avec vous, Rada Atem Ganzer, à la Maison des Femmes, ce sont des sujets qui sont traités de manière quotidienne. La réalité de l'avortement aujourd'hui, 225 000 avortements, un chiffre constant sur les 10 dernières années, principalement pratiqué en Île-de-France, Rhône-Alpes, Sud-Est, ça veut dire les régions qui comptent le plus de population, une majorité de femmes âgées de 20 à 29 ans, mais ça touche toutes les catégories sociales.
Mais clairement, rien ne vous protège d'une grossesse non désirée, vous pouvez même avoir pris la pilule correctement, vous pouvez avoir un stérilé et tomber enceinte. Donc non, il n'y a pas de catégorie sociale particulièrement visée. Par contre, oui, c'est plus fréquent dans les zones de haute densité. Il faut juste réfléchir à qu'est-ce qu'on met en face comme offre de soins. Et c'est là que le bât blesse.
Et c'est là qu'il y a, j'allais dire malheureusement, une certaine égalité entre toutes les femmes. Aujourd'hui encore, quand elles cherchent à avorter, parfois, elles se voient entendre des réflexions désagréables. Certains médecins qui continuent finalement de refuser d'accéder à leur demande. C'est encore le cas aujourd'hui ?
Le sujet est très nuancé et contrasté. Il y a des médecins qui pensent que leur devoir est de protéger la vie à tout prix, comme probablement les 32 députés, et qui peuvent tenter d'infléchir la décision de la femme en lui disant, par exemple, est-ce que vous êtes bien consciente, ou en lui faisant écouter le cœur du bébé à l'échographie, ce qui est complètement scandaleux. Il y a des médecins qui, par exemple, doivent endormir la femme parce qu'ils sont anesthésistes, et quand la femme leur demande, paraît-il, qu'est-ce qu'ils en pensent, se permettent de lui brosser un tableau catastrophique des complications qu'elle risque de subir, alors que lorsqu'il doit faire une péridurale à une femme qui va accoucher, ils ne lui disent jamais, madame, vous savez, on meurt plus souvent en accouchant qu'en avortant, je vous recommande d'avorter. Donc ça, c'est des initiatives personnelles qui sont extrêmement désagréables. Il y a des hôpitaux où les anesthésistes aussi refusent d'endormir les IVG, obligeant les femmes à avoir des avortements sous anesthésie locale. Ce qui n'est pas normal, c'est que les femmes n'aient pas le choix. Et je voudrais juste revenir sur la clause de conscience. On a l'impression qu'en supprimant cette clause de conscience, tout va s'arranger. Mais moi, j'aimerais pas avoir une IVG par un médecin qui n'a pas envie de me faire une IVG. Je pense que je serais très mal accueillie, très mal reçue. Je préfère aller dans des centres où on est bienveillant.
Et avoir une IVG par finalement d'autres femmes qui se sont formées, j'allais dire, sur le tas. C'était la réalité du MLAC, du mouvement pour la libération, pour l'avortement et la contraception. C'est ce qu'on voit dans votre film Blandine Lenoir. Le MLAC a gagné le combat avec la loi Veil en 1975, mais il y a presque ce regret de ne plus pouvoir pratiquer les avortements dans la clandestinité, mais avec cette bienveillance et cette tendresse qu'avait réussi à créer ce mouvement.
Ben oui, c'est en effet la loi Veil, tout en étant un immense progrès, c'est quand même l'aspect médico-légal du combat qui a gagné, c'est-à-dire que tout l'aspect féministe du combat, de prise en charge des femmes, d'éducation, etc. pendant l'acte d'avorter a disparu. Donc aujourd'hui, une femme qui avorte n'aura pas forcément accès à une éducation à la sexualité ou à la contraception à cette occasion-là.
Rassurez-nous, Rada Atem Ganzer, il y a tout de même des centres dans lesquels les choses se passent bien.
Bien sûr, et puis de toute façon, les centres de planification familiale font ce travail. Alors peut-être pas avec le même engagement féministe, mais avec un engagement professionnel qui n'est pas négligeable. Et puis j'entends cette idée que oui, c'est merveilleux que les femmes aident les femmes à avorter. Il n'en reste pas moins que c'est un acte médical. La promotion que faisait le MLAC, c'était les Carman. Les Carman, ce sont des avortements très précoces, méthode venue des États-Unis, ne nécessitant pas d'outils particuliers. Ça, c'est facile. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, avorter jusqu'à 14 semaines de grossesse, c'est technique, c'est parfois un peu complexe. Il faut une habitude, il faut une expertise. C'est un métier.
C'est un métier. Pour toute prise de renseignement, la Maison des Femmes, c'est en Seine-Saint-Denis, mais il y en a désormais une douzaine en France, c'est bien ça.
Tout à fait.
Ouverture à Grenoble, c'était il y a quelques heures, quelques jours à peine, bientôt une autre à Rennes. Le MLAC, la réalité de ce combat, c'est à voir sur vos écrans. Annie Colère, merci à vous deux, Blandine Lenoir, Rada Atemganzer, d'avoir été avec nous. J'ajoute qu'il y a encore du chemin avant que l'inscription soit définitive dans notre Constitution. Il faut maintenant que le Sénat se prononce à son tour. Derrière, il y a deux possibilités, soit le référendum, soit le gouvernement choisit de présenter un projet de loi similaire à cette proposition de loi, projet de loi qui aboutirait à la réunion du Congrès à Versailles, où il faudrait que ce projet de loi soit voté aux 3/5 des deux chambres parlementaires. Le chemin est encore long. Merci infiniment encore à vous deux. Il est 8h53, vous êtes sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
C'est tous les jours de manche.
Et on aime se quitter avec le sourire sur RMC avant de passer la main au GG du sport. Arnaud Demanche, le meilleur d'Arnaud Demanche ce matin, très inspiré par cette proposition des candidats LR du retour de l'uniforme à l'école.
Oui, alors ils disent tenue commune, hein, ils ne se mouillent pas. L'uniforme, c'est courant dans d'autres pays. Les petits japonais, on sait, ils ont leur veste noire à boutons dorés au centre. Les petits américains ont leur gilet pare-balles. les petits chinois ont leur petit bleu de travail et leur petit casque de chantier. Exception avec les petites afghanes qui ont un uniforme avec la mini burqa, mais qui ne vont pas à l'école, pour le coup. C'est un sujet qui préoccupe la majorité depuis quelques années, notamment pour des questions de laïcité. On se souvient de Jean-Michel Blanquer qui voulait une tenue républicaine à l'école. Mais c'est quoi une tenue républicaine? C'est une chemise citoyenne, c'est un pantalon patriote, c'est des chaussettes tricotées en fil de valeur de la République, c'est un slip démocratique. C'est pas très clair, cette définition. Bon, peut-être que l'uniforme va aider niveau laïcité. Et alors, ça aidera aussi à attraper des pédophiles, je pense. Parce que 300 collégiennes en jupette plissée ou en petite cravate uniforme. Tu vas choper Jean-Luc Lahaye et Morandini en dans les buissons à côté de l'école. Moi, je serais pour un bon vieux sac en toile de jute. Voilà, on prend pas de risque. En plus, on est français, on saura le rendre élégant. Les temps sont difficiles en ce moment. Et pourtant, Mathéo fait forte impression. Dans son sac en toile de 10 kilos de pommes de terre, 2 trous pour les bras, 1 trou pour la tête, une ficelle arrotie pour la ceinture, le style est là. Résistant, fluide, increvable, le sac en toile de jute habille de 3 à 12 ans dans une ligne élégante, économique, écologique et républicaine. Allez, à demain.
Merci Arnaud Demanche. Oui, à demain, 7h20, 8h20, du lundi au vendredi. Rendez-vous avec Arnaud Demanche pour rire de l'actualité dans Apolline Matin. Et rendez-vous dans quelques minutes avec Jean-Christophe Drouet et toutes ces GG du sport. Bonjour Jean-Christophe.
Quelques minutes, quelques secondes même. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ça va?
Bah écoute, très bien, très bien.
Ça va mieux là maintenant.
Ouais, les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Évidemment, nous allons largement en parler dans les grandes gueules du sport avec ce matin Stéphane Brun, Denis Charvet, Christophe Cessieux, Marc Madiot et Jean-Louis Tour, notre grande gueule en direct du Qatar. Première question, les Bleus déjà qualifiés pour les huitièmes, est-ce un événement? Oui ou non? Les GG ne sont pas d'accord.
Ah, attends. Non plus, on n'était pas d'accord. Non mais c'est vrai. Ce matin, absolument pas d'accord sur le côté est-ce que maintenant tout est fait ou est-ce qu'il faut continuer de faire très attention. Bien, poursuivons le débat.
D'accord, mais faites attention, nous on veut pas commencer les GG du sport à 6h du matin.
Non, mais c'est pas ce qu'on a fait, vous inquiétez pas.
On se respecte un petit peu.
Non, mais il n'y a pas de problème.
Un peu de dodo.
Ok, allez, ça marche. A tout de suite, la météo, les infos.